Je n'aurais jamais cru que le perdre une seconde fois me rendrait si heureuse. Du jour au lendemain, Jules était redevenu comme avant. Doux, joyeux, précis et fiable, au service d'un autre. C'était merveilleux pour nous de le voir se précipiter vers le petit Oscar, dès le matin, pas très flatteur en même temps. Désormais, les heures passées en notre compagnie lui semblaient agréables, mais accessoires. Le devoir était ailleurs, et donc le vrai plaisir aussi. Je me rappelais tous ces chiots que nous avions élevés, maman et moi, quand nous étions famille d'accueil. Ils avaient la même impatience d'aller à l'école de dressage, une fois par semaine, quel que soit l'agrément de leur gamelle et de notre présence. À un âge proche de la retraite, Jules redevenait un apprenti stagiaire. Il devait faire ses preuves. Et il progressait de jour en jour parce que, de nouveau, on saluait son travail. « C'est incroyable !» nous disait le père d'Oscar. « Il sent les crises avant qu'elles se produisent. Il aboie d'une manière particulière, comme un code. Alors on sait que le petit risque de tomber et on le surveille pour pas qu'il se blesse. » Je n'en revenais pas des aptitudes nouvelles que manifestait Jules, sans lien avec l'éducation qu'il avait reçue. La formation d'un chien d'assistance pour épileptique est très différente de celle d'un chien d'aveugle. Il ne s'agit pas d'un accompagnement fondé sur des règles et des situations apprises, mais d'un comportement d'alerte et de sécurisation face à un problème anticipé. Le site de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie m'a renvoyé à une association canadienne, l'une des seules au monde à étudier, entraîner et promouvoir jusqu'à présent ses facultés canines. D'après la plupart des spécialistes, la capacité de détecter l'imminence d'une crise ne s'enseigne pas. C'est une disposition innée chez 10% des chiens. Encore leur faut-il des centaines d'heures de dressage pour parvenir à gérer ce don en toutes circonstances. Jules, spontanément, avait appliqué à un épileptique l'empathie et le savoir-faire qu'il avait acquis au service des malvoyants. Non seulement il se couchait brusquement au pied du petit garçon en aboyant, refusant de bouger, le code par lequel, naguère, il signalait un vide devant moi. Mais dès que les personnes présentes avaient compris l'avertissement, il guettait les premières convulsions de l'enfant. Et, avec la vigilance mobile d'un gardien de but, il positionnait son corps afin d'amortir la chute qui s'ensuivrait. Il ne s'était pas arrêté là. Désormais, il adaptait le signal d'alarme à ses besoins. Lors de la troisième crise anticipée, le père d'Oscar lui avait donné la récompense qui était à portée de sa main, un biscuit fourré à la confiture d'orange. Le lendemain, alors que la famille Bourdain jouait calmement aux triviales poursuites sur la plage, Jules s'était soudain précipité vers le paquet en réclamant son Chamonix orange. 5 minutes plus tard, Oscar se tordait dans le sable, saisi de convulsions au milieu des cartes. À compter de ce jour, mon chien avait imposé le nouveau code. Il venait chercher sa récompense avant la survenance de la crise. Moyen le plus efficace pour lui de donner l'alarme en y trouvant profit. Je ne disais rien, mais connaissant sa roublardise, je n'étais pas loin de penser que c'était lui qui, parfois, provoquait les symptômes dont il inventait l'imminence par appât du gain. Au bout de quelques jours, cependant, comme pour me faire mentir, les crises étaient devenues inversement proportionnelles à la demande de récompense préalable. Prévenu du danger, le petit garçon se concentrait pour empêcher l'attaque d'épilepsie, tandis que Jules, collé à lui, semblait lui enseigner par osmose une technique respiratoire. Ou bien c'était simplement la tendresse attentive du labrador qui diminuait l'angoisse favorisant les crises. Nous dînions un soir sur deux chez les Bourdain. Ils habitaient une jolie petite maison de pêcheurs dans une impasse près de l'église. Le père travaillait à la halle aux poissons, la mère élevait les trois enfants tout en vendant par téléphone dans sa cuisine des séjours de rêve aux Antilles. Il se confiait beaucoup à Zibal, qui leur avait appris que de célèbres génies comme Alexandre le Grand, César, Dostoïevski, Flaubert ou Mahomet étaient épileptiques, ceci expliquant peut-être cela. Du coup, ils avaient cessé de regarder la pathologie de leur fils comme une malédiction, une maladie honteuse qui faisait peur aux gens ou les faisait rire. Ce que j'attendais avec une vraie appréhension est arrivé à la fin de la semaine. Ils nous ont demandé si Jules, exceptionnellement, pouvait rester une nuit avec son nouveau copain. Puis une deuxième. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à passer davantage de temps chez eux qu'avec nous. En sa présence, désormais, l'enfant n'avait plus jamais de crise. Privé du coup de sa récompense préalable, Jules se rendait justice en allant chaparder dans le paquet de Chamonix, très discrètement, pour ne pas donner de fausse alerte. Les yeux en vigilance orange, la truffe à l'affût de nouveau dominant, il avait retrouvé son poids normal, son poil luisant. Je le sentais aussi heureux qu'avec moi avant, et j'étais bouleversé qu'il m'en demande pardon à l'hôtel par de brefs câlins à Langui, avant de sombrer dans un profond sommeil. Il ne relâchait jamais son attention quand il était à proximité d'Oscar. Avec nous, il récupérait. Ma relation avec Zibal, elle aussi, avait changé de nature. Ce n'était plus un rythme de vacances, une parenthèse oublieuse du reste, après le mauvais souvenir de notre dispute demeurée sans lendemain. C'était déjà comme un brouillon de vie commune, luttant contre les dangers de la promiscuité, le seul moyen, pour des solitaires comme nous, de vérifier si nous étions simplement des amants de l'été ou un couple en puissance. En dehors de nos baignades et de nos galipettes, Zibal s'isolait dans son pigeonnier de 8h à midi et de l'après-sieste au dîner pour peaufiner ses dossiers d'inventeur, ce qui me permettait de bosser de mon côté à l'hôtel en toute quiétude sur mes projets d'émission. C'était mieux qu'un bonheur estival. C'était la bande-annonce d'un quotidien possible. Ces heures de labeur en solo donnaient plus de sel encore et d'intensité à nos fusions charnelles. Et c'était la même chose pour Jules. Il nous retrouvait avec un plaisir accru parce qu'il avait bien travaillé avec son nouveau binôme. J'aurais voulu que ces demi-vacances à trois durent toujours. Mais le 16 août, le téléphone de l'hôtel nous a réveillés en sursaut.